Alors, ce matin, j'apporte le message et j'aimerais vous commencer avec une histoire de pêche. Là, je vous avais dit que j'allais à la pêche une semaine puis que j'allais revenir avec quelque chose. Bon, OK, j'en ferai pas 10, OK, mais il y en a une un matin. Et puis là, c'est un matin, une histoire de pêche. Hein, vous savez comment ça commence? Ça commence le matin avec des maringouins. On sort et puis on s'en va sur un lac. Et puis, j'étais avec mon oncle. Et puis, on s'en va dans un coin du lac où est-ce qu'on sait qu'il y en a d'habitude de la truite. Hein? Nous, on pêche de la truite mouchetée. Alors, commence à pêcher. Pas grand-chose qui se passe. Mais tout d'un coup, ça se met à mordre. Mais uniquement sur la canne de mon oncle. Puis là, je suis comme... Mon petit côté compétitif, tu sais, il y avait comme l'impression qu'il fallait qu'il se fasse aller pour travailler plus fort, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Fait que là, je regarde ça, j'évalue ça, puis... Pensée qui vient spontanée, hey, il y a quelque chose à apprendre ici ce matin. Fait que je suis comme, OK, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Pendant que cette réflexion-là est là, ben, mon oncle continue d'en sortir une après l'autre. Et puis moi, ça mord pas. Tu sais, c'est pas juste, je suis poche à la pêche, puis je suis pas capable de les attraper. Habituellement, je suis pas pire. C'est même pas ça, ça mord pas pantoute. On est au même endroit, le même trou, le même, quasiment le même appât, toute la patte. Puis là, ça marchait pas. Fait que, mais c'est bon, OK, il fait beau dehors, on est où ce que le réseau se rend même pas. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là, je me dis, hey, je vais mettre mon plus beau sourire, là. Même si au départ, mon sourire est comme, ça peut-tu mordre? C'est un autre sourire-là. J'étais comme, ah ben, je vais profiter de ma journée, il fait beau, puis advienne que pourra, va vivre la journée comme elle allait venir. Fin de l'histoire? Ben non, il n'y a pas une fin, mais je vous donne la suite plus tard, OK? Les histoires de pêche, hein, c'est toujours comme ça. Mais en même temps, je ramène ça à une question. Combien de fois ça nous arrive, nous aussi, de se poser la question, veux-tu bien me dire pourquoi les choses arrivent de même? Veux-tu bien me dire pourquoi celui qui habite juste à côté de moi, celui que je connais, vit pas la même chose que moi, ou c'est pas aussi heureux que lui? Puis tu sais, on se compare, puis souvent on se compare avec une réalité plus positive que la nôtre. Ça va? On est dans le même bateau? Vous étiez pas dans le bateau à la pêche, mais quand même, hein? Et puis, on dirait que c'est comme si dans notre tête, dans notre cœur, c'est comme si on se disait « Dieu est en train de l'échapper, Dieu est en train de perdre le contrôle parce que ce que cette personne-là vit versus ce que moi je vis, ça marche pas. Pourquoi? » Est-ce déjà arrivé ça ou il y a juste à moi que ça arrive? Oh là, c'est banal à la pêche, hein? On se comprend. Tu sais, même si mon oncle en a pogné 15 alors que je n'en ai pas pogné une, je savais qu'à la fin de la journée, j'allais manger les siennes et pas celles que j'avais pas pognées, hein, quand même. J'allais être nourri quand même, tu sais. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Mais il y a des situations qui sont pas mal plus graves, qui sont pas mal plus, comment je dirais ça, que l'écart est plus grand et qui ont plus d'impact sur nos vies. Mais j'aimerais vous dire un peu le thème de mon message et la vérité que je veux qu'on retienne ce matin. Ça se dit en quatre mots. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. Et puis, justement, Dieu est en contrôle même quand il y a une tempête, même quand il arrive des choses dans nos vies. Et il y a un passage qu'on connaît, que plusieurs connaissent. Vous avez lu l'Évangile quelques fois ou une fois. Peut-être que c'est un passage qui vous est venu en tête parce que l'image est tellement forte. C'est l'image de Jésus qui est dans une tempête dans un bateau. Tu sais, les bateaux de pêche. Qui est dans un bateau, puis soudain, il y a une grosse tempête qui arrive. Puis on voit la différence de réaction entre les disciples puis Jésus. Et on trouve ça dans Matthieu 8, versets 24 à 26. Tu es en contrôle quand la tempête fait rage. Ça va comme suit. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant... Puis là, je vais essayer de le dire d'une façon un peu paniquée, parce que quand on le dit de façon simple, ça paraît pas comme aussi urgent, mais ça devait aller très, très rapidement le débit. « Seigneur, sauve-nous, nous allons, on va mourir! » Puis Jésus leur dit avec une voix probablement très calme, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Vous savez, on apprend que Jésus... Dans l'Écriture, on apprend que Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. C'est-à-dire que la façon dont Jésus réagit, c'est l'image parfaite de comment Dieu est pour vrai. Comment Dieu le Père est. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et là, ici, il y a quelque chose à retenir. Si Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible, il y a quelque chose à retenir de, justement, sa réaction. Sa réaction à Jésus dans cette tempête-là parle du calme de Dieu, du fait que Dieu demeure en contrôle. Et le contraste est surréel. En fait, les disciples sont pris dans une réaction catastrophique et lui, il dort. Ça vous est-tu déjà arrivé de, il arrive un événement, puis tout de suite, vous êtes déjà au scénario catastrophe? C'est comme si les disciples, il y a une tempête qui se lève, puis eux, ils disent pas, « Hey, il y a une tempête! » Qu'est-ce qu'ils disent? « On va mourir! C'est sûr, on va mourir! » Ils sont déjà rendus noyés. Comprenez ce que je veux dire? Ils sont déjà là. Est-ce que j'aurais fait la même chose? Absolument! Parce que je sais que si un bateau est rempli d'eau et qu'on n'a pas de veste de sauvetage puis qu'on est dans une tempête avec des vagues immenses, je sais qu'il y a de fortes chances que je ne sorte pas de la tempête. On connaît les choses, on connaît la suite. Les disciples sont allés au scénario catastrophe et puis Jésus, lui, va au scénario normal. Il dort. Comment peut-on dormir dans un bateau qui est rempli d'eau? Je sais pas. Mais tout ça pour dire que quand je dis que Dieu est en contrôle, ça se peut que des fois, nous, on est hors de contrôle, mais dans ces moments-là, Dieu demeure en contrôle. OK? Il y a un autre événement avec une autre tempête, une plus grosse encore ça, et dans laquelle on voit Dieu qui a une posture qui est quand même assez révélatrice de qui il est. Et puis, on voit ça dans le psaume 29. On l'a à l'écran. Verset 10 et 11, ça va dire « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » Et alors que c'est le chaos sur la terre, l'Éternel règne. L'Éternel est sur son trône. Il y a cette idée d'être assis sur son trône. Et on voit dans la posture de Dieu quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le bateau, il est couché. Pendant le déluge, il est assis. Et quand il a besoin d'intervenir, qu'est-ce que Dieu fait dans le bateau? Quand il se lève, c'est terminé. Vous comprenez? Il y a l'idée que, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent la Copa América ou l'Euro. Quelques personnes? Il n'y a pas juste moi? OK. Lorsque tu écoutes un match de soccer, ou lorsque tu, même les jeunes, quand vous jouez aux jeux vidéo, quand vous perdez 3-0, là, est-ce que vous êtes assis tranquillement ou vous êtes sur le bout de votre siège debout à essayer de rattraper la shot? Il y a une question de posture, de confiance. Lorsqu'on regarde un match puis qu'on est investi dans le match, là, je parle pas de regarder juste d'un œil extérieur, qu'on est investi dans le match, lorsqu'il arrive un événement où on ne sait pas ce qui va se passer naturellement, on se lève debout pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Quand je vais voir le CF Montréal, lorsqu'il arrive une action qui est comme incertaine, immédiatement, je me lève debout pour voir ce qui va se passer. Ceux qui n'écoutent pas le sport, vous ne comprenez rien. Paix sur votre âme. C'est correct. OK? Mais ceux qui savent, savent. Ce que je veux dire, c'est que lorsque, par exemple, mon équipe gagne 5-0 puis qu'il n'y a pas de chance qu'ils reviennent, je reste assis très confortablement dans mon siège. Mais lorsqu'ils perdent 2-1 puis que c'est critique, il reste 2 minutes, je ne suis pas dans le fond de mon siège. Je suis agité. Je suis dans l'attente qu'il se passe quelque chose. C'est la même chose dans n'importe quel sport. Ce que je veux dire, c'est que la posture de Dieu est en train de nous indiquer quelque chose. Il est assis. Il dort. Il est en contrôle. Nos émotions fluctuent. Lui, il n'échappe pas. Il demeure en contrôle. Et puis dans la tempête, hein, on sait que toute tempête finit toujours par finir. On sait aussi que notre foi en Dieu va inclure des moments de tempête. Mais si on reste dans le bateau, on va voir comment Dieu va agir. Sauter à l'eau ou sortir du bateau, ça peut être tentant, ça peut sembler sécurisant, mais j'aimerais nous encourager que dans peu importe la tempête, la meilleure place où être, c'est le plus près de Jésus possible. Alors, si Jésus est dans le bateau, je veux être dans le bateau. Si Jésus est dans l'œil de la tempête ou de l'ouragan, je veux être dans l'œil de l'ouragan. Parce que là où Jésus est, là est l'endroit le plus sécure. Parce que moi, je perds le contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur les choses. Mais Dieu demeure toujours en contrôle. Amen à ça. Vous savez, quand je vis une tempête, puis j'espère que quand vous le vivez, avec qui vous aimeriez être dans la tempête? Avec quelqu'un qui est capable de dormir ou avec quelqu'un qui est encore plus agité que vous? Moi, j'aime mieux être avec quelqu'un qui est capable de dormir. Ça me rappelle un jour, puis là, les ados sont pas là, une chance, parce qu'ils connaissent même pas ça. Un jour, je travaillais dans un club vidéo. Tu sais, la place où tu allais choisir un film, une cassette VHS. Mais au club vidéo, à 6h30, c'était le rush total parce que les gens avaient jusqu'à 6h pour ramener leurs nouveautés parce que là, il y avait des grades de nouveautés puis de vieux films. Puis là, à 6h30, c'était le rush total parce que les gens se jetaient ces nouveaux films qui venaient de sortir. Puis là, il y avait des line-up, des files pour venir payer. Et je me rappelle d'avoir été avec une autre employée qui était un peu plus vieille que moi. On avait... Dans ce temps-là, j'avais 20 ans, puis je pense qu'elle en avait 25. Et puis là, on avait chacun à notre caisse une file de gens impatients de nous payer de l'argent pour qu'on leur prête un DVD ou une cassette, en tout cas. Vous voyez le genre? Et puis là, elle était de nature un petit peu hyperactive. Dans le sens que elle essayait de faire le plus vite, puis elle courait partout. Puis moi, j'étais à côté, puis j'étais juste, ben, je fais le client. J'y donne. Puis là, on passait la cassette en arrière du pipeur pour pas se faire voler. En tout cas, on lui donnait son affaire, il partait. Puis là, elle me regardait, elle dit, « Peux-tu être stressé? Tu m'énerves! » Là, j'étais comme, « C'est quoi le problème? Je vais plus vite que toi, c'est juste que je suis pas dans l'agitation. » Et ça m'est toujours resté, même 20 ans après, je ne suis pas dur, OK? Inquiétez-vous pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je fais juste dire que le fait que Dieu est en contrôle devrait nous sécuriser. Mais il y a des fois où on aimerait que Dieu soit aussi hyperactif que nous. Aussi hyper... qui fait quelque chose juste pour faire quelque chose. Tu sais, parce que ma collègue qui était là, qui, elle, viroyait partout, elle faisait des choses, mais c'était faire des choses pour faire des choses. Elle faisait trois fois le trajet que moi, je faisais. Il y a des fois, on aimerait que Dieu agisse n'importe comment, juste pour qu'il agisse. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu demeure en contrôle. Il a une perspective beaucoup plus large que nous. Alors, quand il agit, quand il se lève, c'est terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il se lève sur la tempête, c'est fini. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que Dieu fait tout ce qu'on voudrait, comme on le voudrait? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu est en contrôle bien plus qu'on peut l'imaginer. Et quand nous, on est hors de contrôle dans notre cœur ou dans notre vie, ben lui demeure en contrôle. Et même Dieu est en contrôle quand des personnes sont incontrôlables. Ça vous est déjà arrivé, ça? Des gens autour de vous qui sont plus là, sont incontrôlables, peut-être qui sont dévoués pour faire le mal dans votre vie. Mais encore une fois, il y a un passage qui est intéressant, on peut le mettre à l'écran. Proverbe va nous dire la chose suivante. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Et là, on est comme, wow, il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais vous savez, à cette époque-là, il n'y a pas de démocratie. Hein? Le roi, c'est celui qui a le dernier mot sur tout. C'est le tyran qui devient paranoïaque. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui aimeraient prendre sa place. Et en fait, cette image-là et ce texte-là nous apprend finalement que Le gars qui écrit les proverbes, Salomon dans ce cas-ci, est en train de nous dire le roi est la personne la plus difficile à changer d'idée. Parce que si tu vas voir le roi en disant « ton idée n'est pas bonne », ben il y a une certaine époque où est-ce qu'il ne te passe pas à TVA avec le micro, hein? Tu as perdu la tête parce que tu t'es opposé au roi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le roi était la personne la plus difficile à changer d'idée, la plus difficile à changer de cœur. Mais le texte va dire, le cœur du roi, même celui qui serait le plus compliqué, c'est comme un courant d'eau, un simple courant d'eau. Dieu l'oriente comme il le veut. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu peux faire confiance à Dieu, même dans ces moments où est-ce que les gens autour de toi font des choses qui sont incontrôlables, font des choses qui n'ont pas d'allure. Dieu demeure en contrôle, même lorsque les personnes autour sont hors de contrôle. Dieu est en contrôle même quand nos émotions sont hors de contrôle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Quand tes émotions, ton anxiété, tes insécurités, tes peurs, quand tu n'es pas capable de contrôler tout ça, quand ça ne fonctionne pas comme tu espérais, ça arrive, ça? Bien, Dieu ne descend pas de son trône parce que nos émotions sont hors de contrôle. Dieu n'est pas « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Voyons donc, qu'est-ce que tu fais? » Non, Dieu demeure pleinement en contrôle, même lorsque nos émotions sont hors de contrôle. Vous savez, si dans l'Écriture, on voit à plusieurs reprises qu'il est écrit « ne crains pas », c'est parce qu'il y a une raison, hein? C'est parce que notre cœur est enclin à craindre. Puis si Jésus va dire qu'il nous laisse la paix, c'est parce qu'à quelque part, il sait qu'on peut ne pas l'avoir aussi. Ça, c'est logique, ça? Ça vous va? Jésus va dire la chose suivante, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Vous savez quoi? Dans l'Écriture, il est indiqué que Jésus est considéré le prince de la paix. C'est-à-dire, c'est le roi de la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, c'est pas juste celui qui a le plus de paix à l'intérieur de lui. Il est paix. C'est ce qu'il est. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'approche de Jésus, on s'approche pas juste de quelqu'un qui a un coffre à outils avec un peu de paix à te donner. Non, il est la paix. Alors, quand on s'approche de lui, puis qu'il est dans le bateau, puis que ça barouette d'un bord et de l'autre, quand il est écrit qu'il dort, ben c'est cohérent avec sa personne. Il est la paix. Il est le prince de la paix. Et peut-être qu'une prière pourrait être la prière suivante, lorsque justement nos émotions sont hors de contrôle. Prince de la paix, peux-tu m'aider à synchroniser mon cœur avec le tien? Vous savez, je l'ai dit il y a quelques semaines, ce qui calme l'anxiété, ce qui calme la peur, ce ne sont pas des paroles. Ce qui calme l'anxiété, ce qui calme la peur, c'est l'amour d'une personne à côté de nous qui n'a pas peur. Je le répète, ce qui calme l'anxiété, ce qui calme la peur, c'est une personne à côté de nous qui nous aime et qui n'a pas peur. Mais quand on regarde cette définition-là, on se dit, « Hey, c'est-tu Jésus, rien qu'un peu, ça? » Personne qui est à côté de nous. OK, Jésus est là. On est correct. Une personne qui nous aime, on l'a entendu ce matin, il a tout donné pour nous. Il nous a aimé le premier. Alors, on a une personne à côté de nous qui nous aime. Mais non seulement ça, ce que je veux vous apporter ce matin, c'est que comme Dieu est en contrôle, lui, il n'a pas peur. Il est une présence rassurante parce qu'il nous aime et il n'a pas peur. Alors, c'est pour ça que je propose cette prière-là. Seigneur, synchronise mon cœur avec le tien. Bon, effectivement, je ne suis pas en train de dire, voici la nouvelle prière magique. Quand tu dis ça, tout est parfait, tout est parti complètement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est de réaliser qu'on a avec nous en tout temps une personne qui nous aime, qui n'a pas perdu le contrôle, qui n'a pas peur et qui se tient à côté de chacun de nous, peu importe la grosseur de la tempête. Et ça devrait être « Merci Seigneur d'être là ». Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur parce que tu es en contrôle de ce que je ne contrôle pas. Plus on vieillit, puis oui, j'étais né en 88, mais plus on vieillit, puis plus on se rend compte qu'on ne contrôle pas tout. Hein? Au début, on pense que oui. Au début, on pense que c'est tous nos efforts, puis à cause de nos efforts, tout va bien aller parce qu'on contrôle, on maîtrise la chotte, on maîtrise les choses. Mais plus on vieillit, puis plus on se rend compte que, oh, je contrôle peut-être moins de choses que je pensais. Ouais. Puis, des fois, quand on comprend qu'on contrôle rien, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de surcontrôler les choses. Ouais? OK, vous me suivez, c'est bon. Vous êtes attentif. Est-ce que vous avez remarqué que plus on essaie de contrôler tout dans notre environnement, et plus tout le monde étouffe autour de soi. Si vous ne saviez pas pourquoi, ben, ça me fait plaisir. C'est gratuit. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on essaie de tout contrôler autour de nous, ce qui se passe, c'est que tout le monde étouffe autour de nous? Savez-vous que c'est un peu la même chose pour Dieu? Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu est en contrôle de tout puis que j'essaie de tout contrôler à sa place, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je suis en train d'étouffer ce que Dieu veut accomplir dans ma vie. Si j'étais sur le bateau puis je disais, « Hey là, t'as pas le choix, là, il faut que j'en pogne 10 maintenant, sinon je suis plus content. Je suis déçu. » Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de contrôler Dieu pour essayer qu'il fasse ce que je veux bien qu'il fasse. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas de tout contrôler, ma vie, mais la vie chrétienne consiste à remettre volontairement tous les aspects de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui se fait graduellement. C'est comme de dire, ce dossier-là, je te le laisse, je te le donne, je te laisse choisir ce que tu veux faire. Ah, quand on voit ça de même, ce n'est pas si évident, hein? La vie chrétienne, ce n'est pas de tout contrôler. Non, c'est justement de dire, je te fais confiance, ce dossier-là est à toi. Avant, j'essayais de tout contrôler. Maintenant, je te fais confiance, ce dossier-là est avec toi, puis je veux collaborer avec toi selon ta direction. Ce que tu décideras, ce sera OK avec ma vie. Amen. On peut faire ça juste avec quelqu'un qui a le contrôle, hein? Quand je dis à quelqu'un, quand je vois que quelqu'un est hors de lui-même, n'est pas capable de gérer au niveau de ses émotions, de ses décisions, tout ça, je ne lui remets pas les clés de ma vie, ni de mon char. Pourquoi? Ben, c'est voué à exploser, je ne sais pas. Mais lorsque je sais que quelqu'un est en contrôle, ah ben, je suis beaucoup plus à l'aise. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait que Dieu est en contrôle fait en sorte qu'on peut lui remettre ces dossiers-là. Pourquoi? Parce qu'il est en contrôle et il est digne de confiance. Et en fait, quand je vous dis que la vie chrétienne, c'est de remettre des dossiers au Seigneur, je vais vous donner des exemples pour que ça soit bien concret pour chacun d'entre nous. Cette anxiété-là, c'est maintenant entre tes mains. Cette relation cette personne-là dans ma famille, regarde, maintenant, je te le remets, ça t'appartient. Cette tempête-là, elle est à toi. Mon travail, ma carrière, je te l'offre entre tes mains. Dirige-moi comme tu veux. Ma relation de couple, c'est à toi. Mes finances, ça t'appartient. C'est ton dossier à toi. Je veux suivre ta direction. La vie éternelle, c'est à toi. Ce péché-là dans ma vie, je te le remets. J'arrête de combattre par moi-même. Je te le remets entre tes mains. Mes enfants, ils ne m'appartiennent pas. Ils sont à toi. Seigneur, fais tout ce que tu veux dans leur vie. Ma santé, c'est ton dossier. C'est pas le dossier au gouvernement. C'est ton dossier. Ça t'appartient. Et je veux collaborer avec toi. Mon fruit de l'esprit sans trop de saveur, mon irritabilité, ma colère, mon manque de maîtrise, je te le remets à toi. Mes études, ça t'appartient. Mes loisirs, je remets ça entre tes mains. Mon cœur, il est à toi. Vous comprenez qu'on ne fait pas ça en deux jours? Oui? Vous savez, la maturité dans la vie chrétienne ne consiste pas au nombre de versets bibliques que vous connaissez par cœur. La maturité chrétienne, c'est le nombre de dossiers que vous avez littéralement donnés entre les mains de Dieu pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Amen? Ça fait mal de dire amen. Parce qu'on aime avoir le contrôle. On aime décider de tout. On aime. Ça nous sécurise. Mais il n'y a rien de plus sécurisant que Dieu à côté de nous qui dort parce qu'il demeure en contrôle de toutes choses. Parfois, le fait de contrôler tout dans nos vies, c'est une paix ou une sécurité, je dirais peut-être artificielle, peut-être que ce serait le bon mot. On se convainc qu'on est en sécurité, mais au final, notre vraie sécurité, elle est de savoir que notre vie est entre les mains de Dieu. Amen. Je suis dans le meilleur siège lorsque je suis deuxième. Je suis dans le meilleur siège dans la voiture quand je suis deuxième. C'est-à-dire que quand c'est pas juste moi qui conduis les rênes de ma vie, mais que Dieu conduit et dirige ma vie. Est-ce que ça veut dire que Dieu va vous dire, OK, avance d'un centimètre, OK, j'avance d'un centimètre, OK, recule d'un centimètre, OK, bouge plus jusqu'à temps que je te parle. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu parle d'une façon et d'une autre. Dieu nous dirige d'une façon ou d'une autre. Mais le fait de lui remettre ces choses-là dans notre vie, c'est ça qui nous amène une sécurité. Pourquoi? Parce que lui est en contrôle, Dieu est en contrôle de tout. Et je veux être comme l'apôtre Paul dans Galates 2 qui va dire la chose suivante. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Je reviens sur mon histoire de pêche. Ça fait 15 que mon oncle sort à côté de moi. Puis là, on se pose la question, on change toutes sortes de gréments. Finalement, ça mord. Puis ça en est une belle. Bon, une belle, il faut se comprendre, là, c'est pas du 25 pouces, là. Mais une belle d'à peu près 11-12 pouces. Et puis là, malheureusement, il y a de ces journées comme ça, on avait oublié l'espèce de petit filet, la puise, là, qu'on appelle. Fait que là, je suis pogné pour en sortir une grosse, puis j'ai pas de puise. Je m'exécute. Je lève le poisson. Il cogne sur le bord, sur le coin de la chaloupe. Il se décroche, puis il s'en va. Je suis comme, ben, moutadine. Fait que là, je garde mon sourire en disant, j'avais dit que j'étais là pour apprendre, il n'y a pas de problème, je suis correct, ça va bien. Au moins, ça a mordu, tu sais. Finalement, j'en ai pogné une petite. Puis finalement, j'ai pogné la plus grosse de la journée, pas longtemps après. J'en ai sorti une de 14 pouces ce jour-là. Puis, quand la 14 pouces est arrivée, puis j'avais pas plus de filet, là, il a fallu, on calme. On respire, il ne faut pas l'échapper, celle-là. Bref, je me suis dit, si j'avais eu à choisir, qu'est-ce que j'aurais choisi? En attraper 15-20 petites ou en pogner une ou deux, dont la plus grosse de la journée? Puis après ça, le choix dans ma tête, ça a fait, j'aurais choisi ce scénario-là. Mais dans ma tête, au début, j'étais comme, ben pourquoi? C'est quoi cette affaire-là? Puis mon côté compétitif ressortait un petit peu. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un mauvais perdant, mais j'aime pas perdre. Mes enfants le savent très bien. S'ils me battent à un jeu, c'est parce que vraiment, ils ont bien joué. Pas de pitié. C'est correct. On joue à des jeux qui sont capables de jouer, évidemment. Là. Quand je remets le contrôle de ma vie entre les mains de Dieu, parce qu'il est capable d'être en contrôle, je me rends compte que ça va vraiment mieux que lorsque j'essaie moi-même de tout contrôler. Parce que le fait de donner le contrôle, que ce soit de ma journée ou que ce soit d'un dossier, permet à Dieu de me surprendre par sa grâce. Et on l'a chanté pendant toute la matinée, que sa grâce est incomparable, que lorsqu'on lui remet, lorsque c'est lui qui choisit, c'est tellement meilleur que quand c'est nous autres qui le décident par nous-mêmes. Parce que Dieu ne veut pas juste nous donner ce qu'on demande pour prouver qu'il est Dieu. Dieu veut quelque chose d'encore meilleur, par-dessus ce qu'on pourrait même imaginer. Et c'est ce Dieu-là qu'on sert encore aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de promettre que si on remet un dossier à Dieu, tout va arriver comme on veut? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais lorsqu'on laisse nos dossiers dans les mains de Dieu, on a cette paix-là qui est à l'intérieur de nous parce qu'on sait que lui est en contrôle et on sait qu'il peut être créatif d'une façon extraordinaire pour nous surprendre et faire même au-delà de ce qu'on imaginait. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, à lui soit la gloire dans l'Église pour les siècles et les siècles. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? Parce qu'il est en contrôle, je peux abandonner ce dossier-là. Vous savez, Dieu ne pense pas comme nous. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle d'ailleurs. C'est la nouvelle de l'Évangile. Il y a certaines choses qui vont arriver dans nos vies, certaines tempêtes qu'on ne comprendra peut-être jamais. Mais une chose qu'on va comprendre, par contre, c'est notre récompense dans le ciel. Vous savez, j'ai à cœur de dire ça, puis je ne sais pas si ça s'adresse à qui, mais j'aimerais vous dire que notre récompense dans le ciel ne sera pas la somme de toutes les prières que Dieu aura répondues comme on le voulait. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que notre récompense dans le ciel n'est pas liée au nombre de miracles que tu aurais expérimentés. Notre récompense dans le ciel n'est pas liée à tes prières qui seraient toujours répondues, n'est pas liée à quoi que ce soit d'autre qu'une chose, une phrase que l'Évangile va dire qui est bien importante pour moi. J'aimerais vous la partager dans Matthieu 25. Ça va dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Viens partager la joie de ton maître. La récompense dans le ciel est basée sur notre fidélité ici sur terre et non pas sur le nombre de prières que Dieu a exaucées dans notre vie. Vous avez encore le temps de dire amen. Amen. Franchement. Parce que des fois, on regarde notre vie, puis on regarde des personnes autour de nous, puis on dit, « Hey, écoutons, on dirait que lui, toutes ses prières sont exaucées. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu moi qui n'est pas chrétien? C'est-tu moi qui est bizarre? C'est-tu moi qui est perdu? » On a eu l'exemple de François tantôt, un pasteur qui est là depuis 7 ans, qui a zéro fruit, mais que Dieu lui demande de continuer d'être fidèle parce que c'est sa volonté. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parfois, on se compare en disant, ah, lui, il a vécu plus d'affaires extraordinaires ou plus. Oubliez ça. Au ciel, c'est notre fidélité. C'est notre fidélité. C'est notre fidélité. Et j'aimerais vous expliquer ce passage-là. Ah, il est parlé de fidèle. Puis, suivez-moi bien, ça ne sera pas long, mais je veux vous l'expliquer. Vous savez, le mot fidèle provient de la racine, de la même racine grecque que le mot foi, c'est quasiment le même mot, le pistis, OK? En anglais, c'est un peu plus facile à comprendre parce que fidèle en anglais, c'est faithful. Faith, foi, full, rempli de foi. Vous comprenez? Fidèle, rempli de foi. Comme on va dire joyful, joy, joie, full, rempli de joie. Thankful, c'est reconnaissant, rempli de reconnaissance. Vous comprenez? Joyful, thankful, faithful, fidélité. En français, on a moins ce lien-là à cause du mot, justement. Et puis, fait que finalement, c'est bien bon et fidèle ou serviteur rempli de foi. Ma récompense dans le ciel est liée à ma fidélité sur terre. Et voici en quoi consiste la foi. Parce que là, on dit, ah, mais la foi, c'est croire. C'est d'adhérer à une pensée que Dieu existe. Oui, mais en fait, le mot foi parle beaucoup plus de confiance en. Placer sa confiance en Dieu, pour moi, c'est plus de foi que dire je crois que Dieu existe. Parce que dans notre société, croire que Dieu existe, c'est une connaissance intellectuelle. C'est dire, ah ben, je considère que peut-être que Dieu existe. Vous comprenez que la foi, c'est placer sa confiance en. Et l'idée, c'est. La foi consiste à faire confiance en Dieu au point où nos agissements sont cohérents avec cette confiance que nous lui portons. Nous devenons fidèles en agissant constamment comme Dieu le souhaite parce que nous lui faisons pleinement confiance. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire l'idée de la fidélité? On fait tellement confiance à Dieu qu'on veut faire ce qu'il nous demande parce que nous plaçons notre confiance en lui pleinement. Alors, l'idée d'être fidèle, puis l'idée de déposer des dossiers dans les mains de Dieu, il y a quelque chose qui est là. On ne dépose pas de dossier dans les mains de Dieu si on ne lui fait pas confiance. Mais cette foi-là, c'est cette confiance en Dieu. Une confiance, pourquoi? Entre autres, parce qu'il est en contrôle. Même pendant le déluge, il n'est pas tombé de son trône. Il était en contrôle. Je vais inviter les musiciens, je pense qu'ils sont peut-être déjà derrière, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis tant d'emphase sur le fait que Dieu est en contrôle, c'est parce qu'il est digne de confiance. C'est ça la conclusion. Il est en contrôle. Puis à cause de ça, il est digne de confiance, une confiance pleine et entière. Pleine et entière. Et alors qu'on entre dans cette période estivale, je souhaite des beaux moments de pêche, évidemment. Mais j'aimerais vous lancer un petit défi ce matin. Un défi pour cet été. On peut le mettre à l'écran. Merci beaucoup, c'est gentil. Le premier, il y a des gens ici qui ont besoin de croire ou de croire à nouveau que Dieu demeure en contrôle et qu'il est digne de confiance. Peut-être qu'il y a eu un événement dans votre vie où est-ce que justement cette idée-là que Dieu est en contrôle, ça l'a été ébranlé. Vous n'avez pas vu. C'est comme, ah, il me semble que c'était tellement chaotique. Comment Dieu pouvait être en contrôle de ça? Bien, Dieu était en contrôle même pendant le déluge qui était assez chaotique. Mais il y a certaines personnes ici qui ont besoin de ramener au fait que non, Dieu est en contrôle et il est digne de confiance. Le deuxième défi, puis là, vous choisissez le défi que vous voulez. Et si tu lui remettais un dossier que tu ne lui as pas encore remis? Je vous ai donné des exemples. Et s'il y avait un dossier que vous savez que vous retenez, en disant, ah, je suis pas prêt, ou, ah, j'ai peur qu'il m'envoie en Thaïlande si je dis oui. Et des fois, on pense que l'appel de Dieu, c'est, si on dit oui à l'appel de Dieu, c'est sûr qu'il va nous envoyer d'un pays avec des bébites qu'on veut pas endurer. C'est pas ça. Déjà, c'était là, dans le cœur depuis longtemps. Dieu développe cet appel-là, et au bon moment, il nous y envoie. On l'a entendu ce matin. Mais remets-lui un dossier qui n'est pas encore entre ses mains. C'est peut-être le geste de foi le plus grand que tu pourras faire aujourd'hui de cette semaine. Et finalement, fixe tes yeux sur l'objectif ultime. Moi, dans le ciel, là, si je peux entrer et qu'il y a quelqu'un qui m'accueille en disant « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, honnêtement, j'ai besoin de rien d'autre que ça. » J'ai besoin de rien d'autre que ça. Puis j'espère que ce target-là ou cette cible-là est la même pour nous. Ce n'est pas juste les pasteurs, ce bon fidèle serviteur. Parce qu'on est tous et chacun des serviteurs de Dieu. On est tous et chacun des membres du corps de Christ. Sans exception, sans une exception, tous nous sommes les serviteurs et tous nous sommes appelés à entendre un jour, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Des fois, nos yeux sont fixés à ce que Dieu règle tous nos problèmes, à ce que Dieu fixe toutes nos situations, à ce que Dieu réponde avec activisme, comme cette personne-là qui travaillait avec moi, avec agitation. Mais au final, que Dieu réponde comme on veut ou comme on ne veut pas, ce qui compte à la fin, la récompense au ciel, n'est pas liée à si tu as saisi ta bénédiction dans le ciel. Ta récompense est ta fidélité sur terre. Combien tu as fait confiance à Dieu dans les différents aspects de ta vie. Et c'est ça qui grandit. Et c'est ça qui grandit. Et c'est ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est je te donne un dossier, puis des fois, je te l'appelle, puis j'ai juste le goût de le reprendre en sortant. J'ai juste le goût de le reprendre. Mais le fil de la vie chrétienne, c'est de dire, Seigneur, ce dossier-là, je te le remets. Tu vas être meilleur que moi pour décider. Tu vas être meilleur que moi pour le mener à terme. Tu es en contrôle de toutes choses. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous conduit. Merci, Seigneur Jésus, parce que non seulement tu es en contrôle, mais tu nous aimes. Tu nous appelles tes enfants. Tu nous appelles tes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Seigneur éternel, je te prie que pour des personnes qui sont dans des tempêtes, je te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler comme le Dieu qui se lève de la barque. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, ceux qui ont besoin de développer leur confiance en toi, Seigneur, pour toutes sortes de raisons. Seigneur éternel, nous voulons être trouvés fidèles. C'est ça notre foi, c'est ça la foi, c'est d'être fidèle. Et Jésus, je te prie, Seigneur, que dans nos cœurs, puisse y avoir ça. Puisse avoir ce cœur de vouloir être un bon et fidèle serviteur, un serviteur qui te fait confiance, parce que tu es digne de confiance. Alors Jésus, dans ce lieu, je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, je te prie pour une pleine bénédiction sur leur vie, une pleine bénédiction, Seigneur, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur... Justement, dans ces dossiers qui sont encore entre leurs mains, je te prie, Seigneur, que tu donnes le vouloir et le faire, le courage, Seigneur, mais surtout la confiance en toi, que tu es maître de tout. Ah, Jésus, je bénis, Seigneur, mes frères et sœurs, et que ton nom, que tu puisses surprendre chacun par ta grâce, Seigneur, que tu puisses surprendre chacun par ta créativité, par comment est-ce que tu as déjà un plan merveilleux, Seigneur, qui est là. Tu as déjà une solution, Seigneur Jésus, qui est en route. Seigneur, étonne-nous par ta majesté. Étonne-nous, Seigneur, par ta grâce. Et on donnera à toi la gloire, Seigneur, parce que ce matin, nous décidons de te faire confiance. Nous décidons de placer notre entière confiance en toi. Puisse être glorifié en toutes choses, Seigneur. Amen. Amen.